que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans le détail.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Quand on visite un appartement, on regarde les dimensions et si tout va bien, on se projette sur ce qu'on pourrait faire dedans. Quand on visite une œuvre musicale, c'est presque pareil au mur porteur près. Mais quand on revisite, c'est qu'on veut aller encore un peu plus loin dans la projection et pourquoi pas même envisager quelques aménagements, le coût des travaux ou encore le recours aux artisans qui vont pouvoir nous accompagner dans le réaménagement des lieux. En musique, c'est presque pareil, on peut même revisiter le répertoire par l'improvisation, revisiter la pédagogie par la création. Revisiter les Jeux Olympiques par le piano. Métaclassique est cette semaine installée dans l'auditorium du lycée Paul-Éluard de Saint-Denis pour un enregistrement en public d'un numéro revisité dans le cadre de la deuxième biennale de piano collectif. En partenariat avec la Maison de la Musique Contemporaine, on posera la question de la création dans les conservatoires, dont on va pouvoir entendre quatre applications directes avec les étudiants des conservatoires de Saint-Denis et de Clermont-Ferrand qui revisitent le concerto en sol de Maurice Ravel, les élèves du conservatoire de Pierrefitte qui revisitent quelques disciplines olympique, les élèves du conservatoire du 15e arrondissement à Paris et pour commencer, 5 pianistes du conservatoire de Brest dans 3 sonates avec interlude improvisé de John Cage. Bonjour Simon.
Bonjour.
On t'a entendu jouer la première sonate pour piano préparé de Cage et aussi jouer un interlude à la fin. Qu'est-ce que tu préfères ?
Très difficile à dire parce que la sonate, je m'y suis attaché de plus en plus au fur et à mesure que je la découvrais. Donc maintenant, on va dire qu'elle résonne d'une manière particulière pour moi. Mais c'est vrai que ces improvisations, c'est aussi... des moments qu'on partage et qui sont vraiment privilégiés, je trouve, avec Lola et Mewen. En particulier, c'était incroyable.
Ce qu'on a entendu, c'est finalement une composition, c'est-à-dire que c'est une improvisation que vous avez fini par stabiliser ?
Non, c'est de l'improvisation vraiment totale. Là où on peut parler peut-être de préparation, c'est qu'on a fait un travail sur les formes, mais qu'on n'a pas trop respecté au final. Mais c'est vrai qu'on a quand même... on avait étudié le fait de travailler des improvisations en se disant que, par exemple, on prenait un motif et on choisissait ensuite de le répéter plus tard dans l'improvisation. Mmh. Et puis ensuite, par exemple, ça c'était si on faisait une forme donc avec une sorte de refrain, puis des couplets qu'on appelle forme rondo. Donc on a plus ou moins fait un peu ça.
Et l'idée de faire des rondos vous est pas venue de Cage, vous est venue de vous ?
Ouais, c'est des discussions qu'on a eues avec notre professeur.
Avec Marine Lombard.
En travaillant avec ouais. Marine.
Lola, toi tu préfères les sonates ou les interludes ?
Alors moi j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment jouer une sonate en entier pour l'instant. Oui. C'est en projet, c'est en cours, mais donc forcément pour l'instant je crois que je préfère les improvisations.
Ok, et quand vous improvisez c'est forcément quand même inspiré des sonates, est-ce qu'il y a une différence entre imiter et composer ?
Je pense que oui.
Vous avez essayé de garder du cage dans tout ça quand même?
C'était assez intuitif. C'était pas conscientisé. Je me suis pas dit, il faut absolument que je reste dans l'univers.
Ouais.
Mais intuitivement, forcément, on reste un peu dans les sonorités parce que déjà le piano est préparé de la même manière et on a envie de faire comme ça, quoi.
Je vous ai demandé à vous cinq de réfléchir à une définition de la forme et la consigne que vous a transmise votre prof Marie de Lombard était de ne pas révéler avant maintenant les uns aux autres votre définition de la forme. Alors je sais pas, Kylian, tu veux commencer ?
Bon. Oui, ok. Alors, pour moi j'ai mis « En musique, la forme est... » Le procédé avec et par lequel les différentes idées musicales d'une même pièce sont agencées et qualifiées.
Donc c'est un procédé d'agencement pour toi?
Ouais.
D'accord. Lola?
Moi j'avais écrit « La forme, c'est la manière dont on organise et dont on mène un morceau, ça pose et ça installe des repères et ça crée de la cohérence. Il y a des majuscules, des virgules, des points. »
C'est encore une affaire d'architecture cette histoire quand même.
Un petit peu,
ouais. Et Simon ?
Du coup, je pense que ça reprend un petit peu ce qu'ont dit Kylian et Lola. J'ai écrit un truc un petit peu plus long.
Oui.
Je peux le lire
oui,
bien
sûr.
Va
on est ensemble.
Donc, alors, je suis parti du fait qu'on dit souvent qu'une œuvre qu'on apprécie, qu'elle a le fond et la forme. Alors, le fond, qu'est-ce que c'est ? C'est le sens profond d'une œuvre d'art. C'est la signification qu'elle peut avoir, ou le message, ou la finalité. Mais donc, dans ce cas, la forme, qu'est-ce que c'est ? C'est le socle qui va permettre à ce fond d'exister. Donc ça va être la structure, la fondation, un peu comme Lola l'a dit. Et c'est ce qu'il y aura aussi de visible en premier, la forme. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un met les formes, on peut dire qu'il présente bien. Donc c'est aussi ce qu'on voit en premier. Partant de là, ce qu'on appelle la forme en musique savante, donc la structure, donc comme on disait tout à l'heure, par exemple rondo ou forme strophique ou forme sonate, c'est un peu réducteur. Donc la forme, ce serait plutôt tous les choix qui s'imposent à un compositeur avant qu'il se mette à composer son œuvre. Donc il doit choisir quelle formation instrumentale, mais aussi quelle tenue pour les interprètes. Est-ce qu'il y aura la présence d'une sonorisation ? Est-ce qu'on va arranger les instruments, comme sur le piano, comme pour Cage ? Donc plein de choses, en fait. J'oublie plein de choses.
Mais à t'écouter, c'est plus de l'ordre de l'architecture de l'intérieur que d'architecture quand on écoutait les définitions de Kylian et Lola.
Alors pour moi, donc, en fait, c'est une affaire de choix, la forme.
Mais des choix structurels ou des choix...
Justement, c'est tous ces choix-là qu'on va faire, qui vont permettre ensuite, et j'y viens, une fois qu'on a fait tous ces choix, là, l'inspiration, on va pouvoir parler, et on va exprimer quelque chose qui est presque primitif, presque primaire, qui va être la chose qu'on a en nous, en fait, qui a besoin de sortir, et que qu'un compositeur ou qu'un artiste a besoin d'exprimer. Et la forme, c'est donc extrêmement important pour l'artiste, parce que c'est ce qui va permettre à ce fond de sortir. J'ai presque fini. Pour le public, c'est super important aussi. Parce que sans la forme, qui lui donne des repères, elle ne peut pas décrypter l'œuvre, elle ne va rien comprendre, et donc elle ne pourra jamais saisir le fond. Donc pour conclure, en fait, cette forme, pour moi, pour résumer, c'est en quelque sorte le pont ou le lien qui fait la liaison entre le compositeur puis l'interprète, puis entre l'interprète et le public. Donc en fait, ça sert de lien. Donc grâce à la forme,
c'est intelligent.
On peut faire des pratiques collectives. Voilà.
Ah, sinon, ce ne serait pas possible. Quand tu es à la gauche de Simon et que tu t'engages dans une suite d'accords plaqués, est-ce que tu sais d'avance combien il y en aura ?
Je pense qu'il y a un sentiment musical qui fait que je ne le sais pas, mais ce qui va sortir sera logique. Enfin, ça créera quelque chose qu'on peut entendre et qui était peut-être la chose à faire.
Donc, la fin de ce geste-là va dépendre d'une justesse que tu trouves dans le moment présent.
Oui, et je pense que c'est ce qu'on appelle l'écoute.
Et qu'est-ce qui reste de Cage à ce moment-là ?
On l'a dit à la préparation. On est resté dans l'ambiance aussi de Cage. Ouais.
Donc une ambiance. Et alors, ta définition de la forme ?
Oui. Alors, forme de point non féminin. alors, j'ai fait une courte définition et après je dis deux, trois trucs. Donc, ma définition pour la forme, ce serait agencement du temps dans l'œuvre musicale. Si on parle de la forme en musique précisément et pas ouais. En généralité en art. Et du coup, il y a plusieurs éléments qui peuvent la constituer. La distance ou la proximité assumée entre des éléments musicaux, la vitesse d'avènement des moments musicaux, la manière de rompre, la manière de continuer, la force de l'illusion d'unité, la résistance de la première césure et la flexion du dernier geste.
Et ça, c'est une espèce de programme, quasiment ?
Non, c'est des fragments, mais...
C'est des possibilités, en tout cas, pour produire la forme.
Oui, ces éléments-là, c'est peut-être des paramètres ou des choix, comme tu disais, Simon, qu'on fait quand on compose, notamment.
Et quand on improvise aussi. Donc.
Quand on improvise, je pense qu'on a cette conscience-là, on a l'écoute. Et comme on dit en impro, il y a la micro-écoute et la macro-écoute. Et notre corps, il sait, il a conscience de la forme. Mais j'ai l'impression qu'en impro, on découvre la forme à la fin, alors qu'en composition, on fait les choix au début.
Peut-être. tu as pris ta définition de la forme avec toi.
J'ai d'autres éléments que Mewen pour la forme. Et moi, ce qui me parlait, c'était plus tout ce qui était... dans la répétition, le développement d'un élément, la variation, les contrastes. Et ce que j'aime bien dans la forme, c'est que ça fait appel à la mémoire, qui peut prendre des repères, qui peut oublier, qui peut douter, mais qui se souvient aussi de temps en temps. Et la forme, elle nous fait passer par tous nos états, et c'est un parcours qui plaît à certains et qui ne plaît pas à d'autres. Mais on arrive toujours à bon port à la fin, donc tout va bien.
Mais qu'est-ce que tu penses de l'idée de Mewen qu'elle serait déterminée au début quand on compose alors qu'elle se détermine qu'à la fin quand on improvise ?
Bah ça, je suis entièrement d'accord, oui.
D'accord.
C'est compliqué de prévoir quelque chose quand t'improvises, de prévoir une forme. Ça peut très bien marcher comme ça peut...
J'avais l'impression que vous aviez quand même une espèce de canevas dans vos impros, non ?
Non.
Ah non. Bravo alors. Ça donnait l'impression d'un chemin balisé quand même.
Enfin... Eh ben tant mieux, mais...
Donc on avait réfléchi donc à plusieurs formes que ça pourrait prendre éventuellement. On se disait que ça pouvait soit être une forme rondo, donc avec un refrain et des couplets, soit être une forme strophique, où on répéterait plusieurs fois, à chaque fois une même strophe, plusieurs fois. Mais c'était pas prévu.
D'accord.
On se disait sur le moment, on sentira ce qu'on a envie de faire.
Mais il y avait un
et
petit panel pourrait, de
et
possible.
Ça pourrait être ça, mais il y avait un petit panel, mais qu'au final, on ne l'a pas vraiment respecté, tous les trois, à la fin. Donc, en fait, tout était possible.
C'est un panel pour mieux dévier.
Pour se rassurer aussi, je pense.
Ouais. C'est-à-dire ?
Pour se dire, bon, bah, on a une possibilité, on peut se retrouver, on sait qu'on est d'accord sur des formes possibles, mais c'est pas grave si on part sur autre chose, quoi. Mais c'est rassurant d'avoir un... C'est pas assez confortable de savoir qu'il y a des possibilités sur lesquelles on retombe, quoi. On retombe sur nos pattes, quoi.
Puis avec Mewen, on peut jamais faire ce qui est prévu.
Il y en a qui sont plus perturbateurs que d'autres.
Oui.
Forcément. Merci beaucoup à vous cinq.
Génial.
Alors, je vais appeler au micro un groupe composite, composé donc de Dionysiens et de Clermontois. Ce mot Revisited, Fabien Caïto, si je comprends bien, il vient de toi.
Voilà, je ne sais pas, parce que nous, à Saint-Denis, il n'y a rien qui est individuel. Tout est collectif, ici, vous l'aurez compris.
Même les définitions des mots, donc.
Même les définitions des mots qu'on va donner en hockey, donc c'est un mot chacun son tour. Non, tu voudrais une définition, David ?
Ouais, bah, c'est d'abord une pratique pédagogique.
Ouais, c'est une pratique pédagogique. J'ai envie de revendiquer trois héritages. Premier héritage, Alfred Cortot, un grand pédagogue et pianiste du début du XXe siècle, enfin première moitié du XXe siècle, français, qui, moi je l'ai connu à travers, je n'ai pas connu du tout évidemment, mais je l'ai connu à travers mes profs qui me donnaient les éditions Cortot des études de Chopin. Et dans ces éditions, en fait, il prend chaque passage et il crée des exercices pour chacun des passages. Et pour moi, ça, c'est une démarche pédagogique énorme et on essaye modestement de faire un petit peu ça à Saint-Denis. Et donc, on crée des exercices, donc on crée des choses déjà à partir de chaque passage d'une œuvre. Deuxième héritage que j'ai envie de revendiquer, c'est Berlioz qui dit « créer, c'est analyser ». Et dans l'idée de revisiter, enfin du revisited ou revisited d'ailleurs, on ne sait toujours pas comment on le dit, ça c'est le problème du collectif, on part d'une œuvre phare du répertoire de piano, de piano concerto, de tout ça, et on l'écoute et on en fait une première analyse affective et puis ensuite une analyse musicale et on se dit tiens qu'est-ce qu'on en retire, qu'est-ce qui est important dans cette œuvre pour en faire une création. Et puis troisième et dernier héritage, Courtag pour qui vous savez qu'il a créé cette méthode pédagogique qui s'appelle les yatekok, les jeux, et en fait Courtag il nous rappelle toujours cette polysémie du terme jouer, et jouer c'est jouer d'un instrument bien sûr, et donc c'est le travailler, mais jouer c'est jouer aussi avec, et donc l'idée du revisited c'est aussi c'est jouer Ravel un petit peu modestement, mais aussi jouer avec Ravel.
Comment est-ce que tu as travaillé Ravel ?
Comme l'a très bien mentionné Fabien, il y a tout un travail. Il y a eu tout un travail d'abord d'analyse.
L'analyse, ça veut dire donc de mettre les doigts dans la partition et de repérer ce qu'on peut découper.
C'est quelque chose qui me semble important personnellement. C'est un revisited. Ce n'est pas une copie d'abord. C'est avant tout une création. Donc, bien sûr, c'est repérer des éléments caractéristiques de la pièce, mais aussi des passages. Des notes, des enchaînements qui nous plaisent d'abord. Collectivement, bien sûr, chacun son petit passage, chacun, c'est les goûts et les couleurs, tout à fait. Et après ça, c'est le travailler, à l'aide de nos profs, bien sûr, avec des exercices techniques, avec collectivement, bien sûr, des travails d'enchaînement, de compréhension. Et voilà.
Donc il y a une étape où vous décidez ce que vous allez garder, en quelque sorte, de Ravel, et puis une étape où vous décidez de comment vous allez le transformer.
D'abord, c'est trouver l'élément musical avant tout, et ensuite, c'est en faire quelque chose.
Lison Berger, toi tu es à Clermont-Ferrand, ça veut dire que tu as été associé à cet exercice à distance, on pourrait dire, tu es élève d'Aurélie Casalegno qui nous rejoindra tout à l'heure. Donc ce que je vais spécifier, c'est que vous allez entendre une version du concerto en sol, donc celui pour demain de Ravel, dont le premier mouvement a été revisité par les étudiants de Clermont. Le deuxième mouvement est en commun, travaillé et par Clermont et par les Dionysiens, et puis le troisième mouvement par les Dionysiens. Comment ça s'est passé ?
D'abord, on a écouté plusieurs fois la pièce avec mon binôme. On a essayé de repérer des passages qui nous plaisaient, mais on a écouté la version orchestrale pour avoir une vision un peu plus globale de ce que c'était le concerto en sol. Et après, on a choisi du coup des passages, parce que c'est un mouvement assez long, il fait plus de 10 minutes. Et on a choisi quelques passages, 4 passages qui nous plaisaient. Et on a essayé de les revisiter à notre manière. Donc il y a certaines parties qu'on a gardées presque à l'identique, notamment le thème qu'on a finalement étoffé, mais qu'on a gardé presque à l'identique par rapport à la pièce originale. Et il y a des fois, on a gardé que simplement la tonalité ou simplement une impression ou simplement, par exemple, un mouvement de harpe où on a essayé de trouver quelque chose de le plus ressemblant possible. Et du coup, en gardant dans les cordes, dans le piano, qu'est-ce qui pouvait sonner le plus comme une harpe. Voilà.
Donc là, c'est plutôt c'est ça le geste instrumental qui s'inspire d'une impression au-delà de toute considération de thème ou même d'harmonie.
Pour la harpe,
oui.
Oui, c'est ça. C'est plutôt le geste musical et le ressenti à travers ça.
Paul, pour toi, donc, tu es élève à Issoire, à côté de Clermont-Ferrand. Tu as pu découvrir comment improviser avec quelqu'un d'autre. C'était
oui, c'est ça, Lison.
Surtout avec les autres, avec Lison ou avec Ravel?
Surtout avec Lison.
Ça s'est passé comment?
Très bien, j'ai découvert quelque chose de vraiment nouveau parce que je n'ai jamais improvisé avec quelqu'un d'autre, surtout avec deux pianos. Et ça m'a permis aussi de voir le concerto de Ravel autrement parce que au début, j'avais juste écouté la version orchestrale.
Oui.
Et le fait d'improviser dessus, ça m'a permis de plus apprécier le morceau.
Plus apprécier, ça veut dire aussi de l'apprécier en termes de couleur, en termes de...
Oui, c'est ça.
Par exemple.
Par exemple.
D'accord. Nathanaël, tu es élève, toi, à Saint-Denis. Le compositeur, tu dis, t'aide à éclairer ce que tu as envie de faire au piano.
Oui, totalement.
C'est-à-dire que tu découvres tes envies pianistiques par la partition que tu es en train de plus ou moins démembrer.
Cette partition m'a permis de découvrir des styles nouveaux que j'ai envie de retrouver ailleurs dans d'autres morceaux, par exemple.
Et ce serait quoi le style que là, par exemple, on a entendu et que tu pourrais réimporter ailleurs?
Ce serait, par exemple, Dans le morceau, il y a eu pas mal de passages comme avec l'accumulation, par exemple, des notes et du tempo, etc. Et je pense que j'aimerais bien retrouver un morceau du même style où il pourrait y avoir une accumulation.
Lisons, Autain, on a deux Lisons. Toi, tu es prof à Saint-Denis, donc, et tu t'as pris en charge un outil pour communiquer entre Saint-Denis et Clermont, qui est un Padlet,
oui.
Que tu as intitulé « Le Padlet qui révèle Ravel ».
Tout à fait.
Donc, c'est une espèce de jeu de mots, mais qui suggère un rapport entre revisité et révélé. Donc, ça voudrait dire que ce qu'on va entendre, la version revisitée de Ravel, nous révèle ce que l'original nous avait caché.
Ah oui, c'est très bien dit. Je ne sais pas comment rebondir, c'est si bien dit.
Qu'est-ce qu'on va entendre, qu'on n'entendait pas dans la version originale ?
Oui, c'est une manière, le revisited ou revisited, ou qui ravel, je ne sais pas. C'est une manière de sortir les aimants de la pièce, comme disait très bien Cataline. Et moi, ce que je trouve beau, c'est qu'ils se les sont appropriés.
Ouais.
Et donc, dans la révélation, on part aussi du point de vue de l'interprète. Et plutôt que de dire qu'on a une manière de vous jouer Ravel qui est tout à fait différente, personne n'a jamais entendu ça, ce serait plutôt de mettre l'interprète du coup au centre de ce morceau que vous allez entendre. Et c'est en fait leur version à eux de ce qu'ils ont retenu de cette pièce et du coup comment est-ce qu'ils la jouent, comment est-ce qu'ils se l'approprient et comment est-ce qu'ils la retranscrivent. Je ne sais pas si on peut parler de retranscription, je ne sais pas si c'est très juste, mais...
De restitution, sinon.
Restitution,
restitution d'un chemin dans l'œuvre.
C'est ça. Et du coup, ce point de vue de l'interprète, là, il est complètement visible. C'est plutôt ça, la révélation, peut-être, ouais.
Voilà. Alors, avant d'écouter, peut-être un mot, Yanis Belkacem, toi, tu avais déjà revisité Petrushka de Stravinsky dans la première édition de la Biennale de Biennaux Collectif. Mm-hmm. Donc, tu es rompu à l'exercice.
C'est ça.
On peut dire que tu as progressé dedans, que tu as justement des révélations à nous faire sur ce que c'est que revisiter, à force de le faire.
En fait, comme ça a été dit, c'est vraiment essayer de s'imprégner des caractères qui sont itinérants à l'œuvre, qui est la référence. Alors là, en l'espèce, sur le concerto de Ravel, c'était aussi de poser des mots, c'est-à-dire, notamment sur le troisième mouvement, le caractère burlesque, essayer de se mettre un peu. Le caractère assez fanfaronnant, je sais qu'il y a ce sont des termes qui revenaient assez souvent. Donc, oui, voilà en fait.
Et à l'arrivée, est-ce que Ravel, tu as l'impression d'avoir mûri ton rapport à son esthétique en faisant ça ?
Oui, dans la mesure où on a quand même gardé une référence, tout en essayant de se l'approprier, pour reprendre le terme de Lison.
Ouais.
Et j'ai envie de dire, pas le dépasser dans le sens où, pas un dépassement sur la qualité de son écriture, mais par rapport à la forme qu'on essaie de donner à notre visiteuse, justement.
Et à l'arrivée, ça t'intéresserait pas de le jouer en vrai, enfin dans la version avec partition?
Ah, en tout cas, disons que ça m'a forcé un peu plus m'ouvrir au répertoire, oui, à écouter Ravel en large.
Ah oui, c'est-à-dire que tu ne le jouerais pas du tout sans ça?
Oh, peut-être pas, mais en tout cas, ça m'a forcé à m'intéresser, quoi.
Et de travailler avec les Clermontois à distance, ça devait aussi un peu modifier la perception de ce deuxième mouvement lent qu'on a entendu en dernier.
Oui, on ne l'avait pas du tout vu avant ce matin avec les Clermontois,
ouais.
Le deuxième mouvement. Ça a été quelque chose de tout nouveau. On a dû en une heure se préparer pour le concert avec de nouvelles choses à rajouter à nos improvisations, de nouveaux éléments.
Et Lana, toi, Lana Monin, tu es donc à Saint-Denis, t'as l'impression de mieux connaître Ravel à l'arrivée?
Oui.
T'as découvert quoi que tu n'y soupçonnais pas?
Bah, tout son univers, je pense, en tout cas pour ce morceau, hein, cette œuvre.
Est-ce que t'as l'impression que Céline, qui t'enseigne le piano, en parlait différemment de ce qu'elle t'aurait dit de cette partition si tu l'avais abordée classiquement?
Oui, je pense que ça n'a pas rien à voir, mais que c'est très différent comme approche. Et là, c'est plus de manière générale, On a une approche plus générale de ce que voulait faire Ravel.
Plus générale, c'est-à-dire plus synthétique, plus...
Oui, oui, plus synthétique. Enfin, on a plus de recul, j'ai l'impression, sur l'œuvre et ses intentions.
C'est-à-dire que tu serais d'accord avec l'expression de Lison tout à l'heure, ça révèle Ravel ?
Oui. Je trouve que c'est très juste.
Céline Rouleau, pour toi, qu'est-ce que pédagogiquement ça apporte de procéder de cette façon-là ?
Alors déjà, juste une petite chose, oui. En fait, on va répondre, vous avez vu qu'on partage à même le même tabouret, tous les deux. Donc Aurélie, qui est donc le professeur de Clermont et moi-même, je pense que toutes les deux, on a des petites choses, en fait.
En général, il y a plusieurs centaines de kilomètres qui vous séparent et pas là.
Mais voilà, là, on est très... En fait, on a décidé dorénavant de rester très, très proches. Donc j'en ai oublié la question.
Est-ce que ça change dans la pédagogie de Ravel ?
Alors, disons, ce que change cette manière d'aborder le répertoire de Ravel, la première chose, je pense que c'est une rencontre avec l'esthétique du compositeur d'une manière beaucoup plus globale que ce que l'on pourrait faire en ne travaillant qu'une seule pièce. C'est ce que je trouve assez intéressant. C'est-à-dire qu'on va, effectivement, un petit peu comme ce que voulait dire Lana, on va s'intéresser à Ravel, le compositeur, ses procédés d'écriture, des caractéristiques que l'on peut retrouver même d'une œuvre à l'autre. Enfin, on va ouvrir finalement le discours et le fait de travailler cette pièce-là, je ne dirais pas que c'est un prétexte parce qu'on l'a souhaité. On était enchantés de pouvoir travailler avec eux cette pièce-là. Mais en tout cas, elle nous a permis effectivement de révéler beaucoup plus de choses que le concerto en sol.
Mais par exemple, il y a des choses que vous pourriez nommer de la pièce qui ressortent en particulier au moment de faire cet exercice ou
Alors qui ressortent en particulier, ouais. Je ne vais pas répondre tout à fait à ça, mais par rapport au travail à partir d'une partition d'orchestre,
oui.
Ça nous a permis de passer plus de temps que d'autres fois où on fait par toutes petites touches, plus de temps sur la partition, à écouter, ah bah tiens là c'est tel instrument, c'est écrit comment sur la partition, et après s'en inspirer au piano pour nourrir l'imaginaire et le geste instrumental.
Oui, parce que sinon quand on bosse un concerto, on reste focus sur la partie piano quoi.
Bah oui.
Donc ça apporte ça quand même, ça apporte l'orchestre dans le cours de piano. Ce qui n'est pas rien. Merci beaucoup à vous cinq. On a là donc le cas de conservatoires qui pratiquent la création en cours d'instruments de façon courante, ce qui n'est pas systématique dans tous les conservatoires de France, qu'on va voir tout de suite avec Anna de Melbiaï. Anna Melbiaï, tu es chargée de veille à la Maison de la Musique Contemporaine, en charge d'un dossier précisément sur la place de la création musicale dans les conservatoires, qui est un dossier finalement assez récent. Il y a des réflexions collectives, pour le coup, qui se mènent sur le sujet depuis environ 2-3 ans.
Oui, c'est ça. En fait, la Musique Contemporaine a été sollicitée en 2022 par la Philharmonie, pour organiser un événement autour de la question de la vocation à la composition dans les CRR et les CRD. Et donc c'est vrai, à ce moment-là, ce n'était pas forcément un réseau avec lequel la Maison de la Musique Contemporaine avait l'habitude de travailler. Néanmoins, la question nous apparaissait très importante et essentielle, donc nous avons creusé à ce moment-là cette question.
Alors, l'un des enjeux du langage contemporain et donc la haute importance que la Maison de la Musique Contemporaine soit impliquée dans ce sujet, c'est que ça constitue le musicien comme créateur au moment même où il commence à toucher son instrument, en quelque sorte.
Oui, en fait, c'est vrai que donc, nous avions eu l'occasion d'échanger avec différents professionnels de l'enseignement dans ces établissements pour essayer d'établir une sorte d'état des lieux de ce qui se faisait. Et nous avons constaté que même si des conservatoires avaient déjà pris l'habitude d'intégrer la création musicale dès les premières années, d'enseignement, ce n'était pas forcément une généralité, loin de là. Et que encore aujourd'hui, l'approche majoritaire consistait à ce que l'élève entre en classe de formation musicale ou d'instrument, mais pas nécessairement en musique pris au sens large du terme, en fait.
Et alors, parmi les choses vertueuses qui peuvent se faire en la matière, là on a un exemple parfait à l'instant, à savoir une dynamique aussi entre des établissements. C'est quelque chose qui est à ce point rare ?
Alors, en fait, c'est assez difficile d'avoir un... C'est la chose dont on s'est rendu compte en travaillant sur cette question, c'est qu'il est assez difficile d'avoir un véritable état des lieux parce qu'il n'y a pas véritablement de travail de recensement de la place de la création dans ces établissements qui sont gérés par des collectivités territoriales et qui donc peuvent avoir des approches très différentes de la pédagogie. Néanmoins, des retours qu'on a eus, effectivement, il semblerait que... l'enseignement dans ces établissements soit encore très cloisonné par classe instrumentale ou même par approche artistique, que ce soit la danse, le théâtre ou la musique, et que ce cloisonnement ne favorise pas, d'une part, la circulation des élèves et, d'autre part, une place, on va dire... principale de la création musicale. Disons que ce qui nous a été remonté, c'est que la création musicale pouvait avoir une place, mais un peu à part, mais qu'elle n'imbibait pas l'ensemble de l'enseignement des différentes classes du conservatoire.
Donc si je comprends bien, il y a à peu près trois configurations. Il y a des conservatoires où il y a des classes de création, mais du coup, faut-il être dans ces classes pour créer ? C'est pas inhérent à l'apprentissage de la musique. Il y a peut-être des conservatoires où il n'y a pas du tout de création musicale.
Ça arrive, ouais. Ouais.
Et puis, il y a des conservatoires comme ceux qu'on réunit aujourd'hui, où la création est complètement inhérente même à l'activité instrumentale de départ.
Oui, c'est ça. Et du coup, nous, notre enjeu maintenant, que nous avons pris conscience de cette réalité, va être de justement s'appuyer sur les conservatoires qui ont ce modèle pédagogique qui inclut la création musicale dès les premières années d'enseignement, pour mettre en avant ces modèles auprès d'autres conservatoires qui auraient peut-être un enseignement encore un peu classique, pour les sensibiliser à la pertinence pédagogique et à la vitalité, au dynamisme que cela peut générer sur l'établissement d'une façon plus générale. Et...
Oui.
Oui. Non, et donc, du coup, nous mettons en place des rencontres régionales pour s'adresser aux conservatoires, vraiment, essayer d'intégrer le maillage territorial au plus près. Et pour aussi s'adresser directement aux professeurs, parce que, comme je le disais il y a quelques minutes, comme les élèves rentrent principalement en classe d'instruments quand ils rentrent au conservatoire, le rôle de ces enseignants est primordial pour intégrer la création musicale dès les premières années et pas attendre que l'élève ait quelques années de conservatoire derrière lui pour enfin avoir le droit de toucher à la composition et à la création.
Est-ce que c'est vrai qu'il faut être labellisé pour faire de la création dans les conservatoires ?
Alors oui et non, parce que chaque conservatoire a une forme de liberté.
Mais c'est quoi cette histoire de label, je veux dire, avant de comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive à parler comme ça ?
Les conservatoires sont sous la tutelle des collectivités territoriales qui peuvent adapter l'enseignement pédagogique selon leurs souhaits. Néanmoins, il y a un cadre commun, un socle, qui est mis en place par l'État via ce qui s'appelle le schéma national d'orientation pédagogique et qui définit des conditions et des critères pour l'obtention de labels. Pour donc les labels, ce qu'on appelle les conservatoires à rayonnement communaux ou intercommunaux, départementaux, enfin départemental et régional. Et du coup, dans ces critères et ces conditions, la création n'est pas toujours une obligation. En fait, elle devient le département composition devient obligatoire à partir de l'échelon du rayonnement régional. Au niveau départemental, c'est en option avec une autre classe de type jazz ou musiques actuelles. Donc c'est au choix. Et l'échelon intercommunal et communal, il y a une mention de démarche créative, mais sans donner plus de détails. Donc c'est vrai qu'on va dire qu'au niveau étatique, il n'y a pas une vraie impulsion pour imposer la création dans les conservatoires.
Parce que donc ce label fait qu'on peut ouvrir ou non des classes dédiées à la composition, à la création dans les conservatoires, mais évidemment qu'il ne faut pas de label pour revisiter Ravel
bien
dans
sûr.
N'importe quel cours d'instrument.
C'est
soyons clairs
ouais.
là-dessus, très bien. Et donc qu'est-ce que va faire dans les prochains mois la Maison de la Musique Contemporaine pour insuffler cette généralisation ?
Eh bien, actuellement, nous travaillons avec le CRD de Montbéliard. Donc, on organise une rencontre de journée professionnelle à destination de la région Bourgogne-Franche-Comté. Mais après, c'est ouvert, évidemment, à toutes les personnes qui souhaiteraient venir. On n'est pas fermé. Donc, une journée professionnelle pour sensibiliser sur ces questions. Donc nous allons essayer de faire venir les professeurs et les directeurs des conservatoires du territoire, mais aussi des autres établissements d'enseignement artistique qui ne sont pas nécessairement la musique, parce que ce qui est apparu aussi dans les différents échanges, c'est que ça pouvait être très porteur pour un conservatoire de travailler en collaboration avec d'autres institutions du territoire, que ce soit des écoles de musique ou d'autres écoles, des écoles de design, des écoles de mode, des écoles d'art plastique, etc., pour qu'il y ait un aller-retour en fait, entre l'intérieur et l'extérieur du conservatoire, et que ces projets, cette dynamique de projet, pouvait être très porteuse pour les élèves et du coup pour le conservatoire. Donc nous travaillons avec le conservatoire de Montbéliard, nous allons où des enseignants vont présenter un peu leurs projets, par exemple typiquement le projet de la biennale pourrait être présenté pour montrer à des professeurs qui ne sont pas peut-être pas encore forcément dans cette logique là qu'il y a des choses à faire très très stimulantes, et pour un peu donner l'envie de monter des projets. Et donc voilà, en parallèle de ça, enfin dans l'après-midi, il y aura un temps consacré sur une autre thématique, sur l'intelligence artificielle et sur toutes les questions que cela porte par rapport à la création, à la créativité, mais dans un sens plus large que la musique.
Merci beaucoup, Annabelle Miaille. On va accueillir Emmanuel Tat, tu es complice de la première heure de la Biennale de Piano Collectif, tant et si bien que tu participes aussi au journal de la Biennale. Dans le numéro 7, le dernier numéro en date, on peut lire une phrase de Jean Kelevitch qui dit « Pour commencer, il faut commencer, et l'on n'apprend pas à commencer. Pour commencer, il faut simplement du courage. »
Pas mal.
C'est pas mal. Et donc toi, quand tu commences avec des élèves, tu te dis « Avant de leur apprendre à jouer des notes, il faut leur apprendre à créer. »
Il faut qu'ils aient beaucoup de courage.
Et comment tu les encourages ?
Qu'est-ce qu'on leur apprend ? À se lâcher, à jouer, à y aller, à oser, à créer, à voilà, plein de choses.
Le premier cours, c'est forcément de l'impro ?
Au piano ou alors l'atelier d'impro ? Parce que l'atelier d'impro,
non,
oui.
Au piano, oui.
Mais le premier cours de piano, il se trouve que oui, moi je fais de l'impro tout de suite.
Ça veut dire, ça donne quoi ?
Ça donne quoi ? Bah, ils tapent sur le piano, hein, mais...
On commence par non, le cluster, ça, c'est ça ?
Non, mais en fait, l'idée, c'est qu'un élève joue tout de suite au piano, puisque l'envie, oui. elle est là, elle est de jouer tout de suite sur un clavier. Et donc, l'idée, c'est de le faire jouer immédiatement. Alors, c'est très simple, on peut apprendre 2-3 modes de jeu, comme le glissando, le cluster, et hop, c'est parti.
Annabelle Miaille nous disait à l'instant que forcément, faire des partenariats avec des associations voisines, extra-musicales, est forcément porteur de création. Vous seriez prêt à faire un partenariat avec le club de ping-pong de Pierrefitte ?
Écoute, pourquoi pas. Mais là, on va pas faire du ping-pong proprement dit. On va jouer avec des balles de ping-pong.
Donc c'est du revisited de
sonore,
disciplines olympiques.
Quand même. Sonore, mais sonore, ouais. Sonore.
À quel point vous avez redimensionné les disciplines olympiques pour pouvoir les faire au piano ?
Redimensionner, c'est-à-dire ?
Non, en fait, je pense à Dominique Hélène, qui est un poète qui, dans les allées du marché de la poésie de Lille, a commencé à imaginer d'autres disciplines olympiques, comme le saut en largeur, par exemple.
Ah oui.
Je me disais que... Ou bien le 100 x 4 mètres à la place du 4 x 4
mètres.
Ça pourrait donner des idées à tes élèves. Eh bien, on va les écouter, donc faire deux improvisations.
Oui, c'est ça.
À thématique olympique.
Voilà, la première, c'est ping-pong. Donc, évidemment, les élèves vont jouer avec des balles de ping-pong. Ils vont essayer de créer une pièce improvisée à partir des sons de balles de ping-pong et avec un piano, évidemment. Et puis la deuxième pièce, c'est la nouvelle discipline olympique, breakdance, qu'il va y avoir, où là, il va s'agir d'un jeu plutôt très rythmique au piano, avec des espèces de battles, enfin en tout cas des positions solistes, on va dire, rythmiques, de la part des pianistes. Voilà.
Eh bien, avant d'écouter la dernière pièce de cette émission de radio en forme concert, nous accueillons pour conclure Maïlys Pascaud-Augustin Montagutelli et Antonin Schuller, qui sont les élèves de Sophia Vaillant au conservatoire du 15e arrondissement, pour savoir qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce qu'on a dit jusque-là. Est-ce que vous avez revisité la définition du verbe revisiter?
Vas-y,
Augustin Montagutelli.
De ce que j'ai compris, c'est reprendre finalement une pièce, enfin, on l'a vu avec l'exemple par exemple de Ravel, et on a incrémenté des éléments d'improvisation qui peuvent des fois déborder, partir sur un autre type de musique. Par exemple, on peut aller sur les musiques atonales et justement créer des atmosphères, des clusters ou des choses comme ça.
Des allers-retours de style.
Voilà, par exemple, ou même aller dans d'autres types de musique pour explorer un peu avec l'improvisation.
Maïlys Pascaud, qu'est-ce que tu pourrais ajouter à ce début de définition d'Augustin ?
Alors, c'était vraiment très intéressant aujourd'hui d'avoir autant d'approches de ce que c'est que revisiter, finalement, tant sur cette idée de forme plus ou moins ouverte, cette idée de citation, voire de pastiche, d'utiliser d'autres choses que de la musique, en fait, tout simplement. Et je trouve que c'est vraiment une approche globale qui est très intéressante de ce qu'on a vu aujourd'hui, de cette idée de revisiter sous un peu toutes ces acceptions.
Et en quoi est-ce que vous allez nous jouer maintenant, alors peut-être Antonin, c'est de l'ordre de la revisite.
On ne pourrait pas spécialement parler de revisite, c'est plus exploiter des idées musicales, s'écouter et l'ordre de se répondre entre musiciens.
Mais vous êtes revisité par une machine ? En temps réel. Sophia Vaillant, tu peux peut-être nous expliquer
oui,
ce comment vous avez
travaillé. Revisiter peut-être pas, mais c'est surtout expérimentation, pour finir ce que disait oui. Antonin, en effet. C'est de l'écoute, c'est du jeu collectif, et c'est de l'expérimentation en direct. Et ça, c'est le contenu en fait, de cet atelier d'improvisation incluant l'ordinateur.
Donc l'ordinateur, c'est-à-dire... qu'est-ce qu'il fait ? Il apporte des effets de delay, de reverb.
Exactement. De alors l'ordinateur, c'est un patch. Un patch, c'est ce qu'on appelle la partition électronique, donc avec un logiciel. Celui-ci, c'est Max Mespé, mais il n'est pas le seul. Et en effet, c'est plusieurs effets, des effets d'ailleurs que ce qui est bien de finir, puisqu'on conclut, finalement on généralise un petit peu ce qu'on a entendu aujourd'hui, des effets de cluster, donc avec un langage différent, des effets de timbres différents, donc là on va avoir la modulation de fréquence par exemple, ou alors le frequency shift, vous entendrez des timbres différents sortis des haut-parleurs. Et puis on a aussi entendu du clavier, du synthétiseur, enfin du clavier numérique. Et là, c'est les sons de synthèse, donc le principe de la synthèse additive, qu'on entendra, enfin que les participants de l'atelier, donc revisiter, c'est plutôt visiter, une visite élargie.
D'accord, et puis on va ouvrir les fenêtres pour terminer. Merci à vous, merci.
Thank you.